Top, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
MJV. Les journalistes ne m'intéressent pas.
You are fake news.
Il est 9h40 sur France Inter. C'est reparti pour un nouvel Instant M.
Vous coupez ?
Non, je vous vois.
Vous êtes en direct, allez-y.
Je m'appelle De Villers. C'est le nom de mon père, un patronyme picard qui ne dit pas l'histoire de ma grand-mère paternelle, fille d'immigrés italiens que je n'ai pas connue. Une Italie qui s'est perdue, elle était française, ma grand-mère, française, point. Je m'appelle Sonia, c'est ma mère qui a choisi ce prénom parce qu'il rappelle sa Roumanie d'origine. Ma mère qui a fui le régime communiste avec ses parents en 1962, un exil douloureux qui est resté là et bien là. Mon deuxième prénom, c'est Marianne. Pourquoi Marianne ? Parce que ma mère était fière de sa naturalisation française. Ce soir et la semaine prochaine sur France 2, vous tous entendrez l'histoire de vos familles, faites de Bretons, de Catalans, de Polonais, d'Algériens, de Vietnamiens et de Sénégalais. Ce que c'est que d'être français, une saga documentaire en 4 épisodes qui dit un siècle et demi d'accueil, d'assimilation, de repli, de déchéance, de nationalité et de trahison. Une histoire de France racontée par nous, les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants d'eux.
L'Instant M, Sonia De Villers, sur France Inter.
Et je vous présente les deux auteurs de cette très belle soirée qui se poursuivra mardi prochain par une deuxième soirée. Vive le service public, voilà qui est grandement utile. Les auteurs, mes invités donc, sont Françoise Davis, bonjour, et Carla De Hold, bonjour.
Bonjour.
Vous aussi, vous voulez raconter l'histoire de vos noms, Françoise Davis?
Ah ben moi, c'est mon nom, je m'appelle Davis, donc oui. Là, c'est un nom qu'ont choisi mes grands-parents, parce qu'après la guerre, mes grands-parents étaient juifs et on avait le droit de changer son nom, et donc ils ont pris le nom du magasin, Davis. Davis, il y avait une apostrophe, ils ont mis deux SE, voilà. Donc je m'appelle Davis, j'en suis très fière. Il n'y en a pas beaucoup des Davis deux SE, mais c'est mon histoire.
Carla De Hold.
Moi, c'est origine allemande et comme mes parents voulaient un peu franciser, ils ont mis un C à la place du K pour Karl.
Donc pas comme Karl Marx, c'est
non,
ça.
Voilà, exactement.
Bien, Histoire d'une nation, soir événement sur France 2. Deux épisodes ce soir, deux épisodes mardi prochain, on va en parler dans un instant. Mais comme chaque mardi, l'ami Xavier Delaporte est à nos côtés. Bonjour Xavier.
Bonjour Sonia, bonjour à tous.
Voilà, La Fenêtre, c'est votre chronique hebdomadaire, une ouverture sur le monde numérique et les petites idées qu'on s'en fait. Alors ce matin, Xavier.
Eh bien, ma fenêtre s'est ouverte sur une vidéo sur laquelle je suis tombé hier, un peu par hasard. On est en Iran, dans le métro, c'est peut-être à Téhéran, mais rien ne l'indique. Deux femmes se disputent. L'une, voilée, agresse verbalement une femme qui n'est pas voilée. « Vous n'avez pas d'honneur !»« Ne me parlez pas mal !» répond la femme, tête nue. « Vous avez beau porter un voile, vous êtes mal poli, et si j'ai envie de me promener nu-tête, ça n'est pas votre problème. » Alors, la femme voilée interpelle les voyageurs masculins. « Pourquoi vous ne faites rien ? Vous êtes sans honneur !» Et là, ce qui est étonnant, c'est la réaction des hommes autour. Ils ne prennent pas le parti qu'on attend. Ils disent à la femme voilée, laissez-la tranquille, l'honneur n'a rien à voir avec le hijab, l'honneur c'est de ne pas voler, c'est à cause de vos histoires de voile et de religion que le pays est ruiné depuis 40 ans, vos maris religieux sont des voleurs, nous, on n'est pas des voleurs. La vidéo dure 1 minute 30 et elle est frappante. Évidemment, c'est dur d'en identifier la provenance, elle a été mise en ligne il y a 5 jours sur une chaîne YouTube du nom de Democratic Iran Channel, mais c'est difficile d'en savoir plus. Et difficile même de savoir, à moins de parler farsi, si ces femmes tiennent vraiment les propos que leur attribuent les sous-titres en anglais. Néanmoins, j'ai une fascination pour ce type de vidéos qui, si on y fait bien attention, surgissent dans les réseaux et nous racontent une autre histoire des pays d'où elles proviennent. Elles me fascinent précisément parce qu'elles sont incertaines et brutes. Tellement plus brutes que les vidéos du site Brut, qui ne sont pas inintéressantes évidemment, mais qui sont tout sauf brutes parce que très écrites et très
montées.
Ici, on ne sait pas très bien ce qu'on voit, mais on le voit. Et sans l'illusion de les comprendre vraiment. En ça, ces vidéos, qui nous arrivent de loin et qui nous sont données dans leur brutalité, contrastent fortement avec les images d'actu produites par les JT, qui nous sont données, elles, avec leurs commentaires et qui sont toutes prêtes à la consommation. Ce qui me fascine, c'est aussi ce qui se dit dans cet échange. S'il est viridique, il offre une plongée dans les tensions d'une société iranienne qu'on a toujours tendance à voir de loin comme monolithique ou presque. Soudain, il renverse l'image des femmes qui ne sont pas que soumise à un patriarcat écrasant. C'est contre-intuitif que les hommes présents dans la rame prennent spontanément la défense de la femme non voilée. Qu'est-ce qui pousse ces hommes à réagir comme ça? Pourquoi la question du voile s'élargit-elle si vite à la corruption des religieux? La société iranienne en est-elle, du moins dans une grande ville, à ce point d'exaspération? En soulevant toutes ces questions, ce type de contenu auquel il est impossible, ou il était impossible, d'avoir accès avant Internet, nous met dans une situation active, regarder la vidéo plusieurs fois, chercher la source, essayer de comprendre si elle n'est qu'une simple anecdote ou si elle a un sens plus général. Pour le dire autrement, elle incite tout internaute qui la voit à adopter la position de curiosité qui est celle du journaliste, mais pas simplement celle du journaliste. Position passionnante, mais toujours risquée.
Voilà. Et nous, on peut vous réécouter, Xavier, La fenêtre de la porte. Ça me fait toujours autant rire, le titre de votre chronique.
Pas que vous.
Sur franceinter.fr. Et je vois dans les yeux des deux documentaristes qui sont en face de vous. Mon Dieu, que de documents pour l'histoire sont en train de se fabriquer avec YouTube et les vidéos prises par des téléphones portables dans les métros un peu partout dans le monde. À la semaine prochaine, Xavier.
À la semaine prochaine.
L'Instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Le 14 juillet, fête nationale, est une fête tardive. Il faut attendre la Troisième République et cette date ne va pas de soi.
Mon plus ancien souvenir a été cette manifestation du 14 juillet 1880, n'est-ce pas, qui a été la première manifestation en faveur de l'anniversaire de la prise de la Bastille de 1789. Et je me rappelle avoir remarqué qu'une moitié de la ville était pavoisée des drapeaux tricolores, tandis que l'autre moitié avait fermé tous ses volets en signe de deuil.
L'une des très nombreuses archives à voir ce soir sur France 2 dans l'histoire d'une nation. Françoise Davis, Carla Derhold, qu'est-ce qu'une nation ? Interdit de rigoler et vous avez peu de temps pour répondre. Voilà, en plus,
Françoise Davis. Une nation, c'est une grande idée inventée au 19e siècle pour combattre les monarchies et les empires de l'époque dans toute l'Europe. Et on s'est dit, on va unir les gens autour de quelque chose, et ce quelque chose, c'est la nation.
Alors, la nation, ça n'est ni le pays, ni le territoire, ni la patrie.
Voilà, et puis c'est
en pas... quoi ça se différencie ?
Ben, ça se différencie parce que c'est une construction politique datée d'une époque, et qui est quelque chose qui se décide, qui se détermine à un moment où, parce que la nation, on en parlait avant, on en a parlé, Rousseau en parlait, mais elle se construit vraiment à un moment où il y a la révolution industrielle. Pourquoi ? Parce qu'il y a les moyens d'aller convaincre chaque village, en tout cas pour la France, d'aller convaincre chaque village que, en effet, il y a une nation, qu'on est tous français, qu'on parle la même langue. Alors ça, c'est très français parce que ailleurs, dans les pays d'Europe, ils ont construit aussi une nation, mais pas du tout de la même manière.
Carla Derhold, c'est tout l'objet de ce film, hein, évidemment, en 4 épisodes. Le titre n'est pas de vous. L'histoire d'une nation, c'est aussi un grand film américain de W. Griffiths, 50 ans après la guerre de sécession en Amérique, dans les années 20. Voilà l'histoire d'une nation qui a été une grande problématique du monde moderne, finalement.
Bien sûr, tous les États occidentaux, et au sens large, ont eu cette problématique. Ce qui nous a intéressé dans le fait de le reprendre, c'était de montrer, contrairement à ce qu'on pense d'habitude, c'est que la France est une nation, au sens moderne du terme, récente. C'est-à-dire qu'elle date de 1870, du lendemain de la défaite contre l'Allemagne. Et donc, à partir de ce moment-là, on a vraiment commencé à construire un ensemble commun. Et ce qui est intéressant, c'est ça, c'est-à-dire que on fait l'école gratuite, laïque et obligatoire pour que tous les enfants aient la même culture. On fait le service militaire pour que tout le monde puisse participer à l'effort de guerre. Enfin, il y a vraiment cette constitution de la nation. Et dans ce cadre-là, effectivement, les immigrés sont pris dans le mouvement. Et parce que l'idée de la Troisième République, c'est de fabriquer des Français. Il faut en fabriquer le plus possible.
Fabriquer des Français, voilà qui est passionnant. Le film de Griffiths, d'ailleurs, c'est pas Histoire d'une nation, c'est Naissance d'une nation. Alors, c'est absolument impossible de balayer en entier ici le travail colossal et le siècle et demi que couvre Histoire d'une nation.
Voilà. Histoire au pluriel. Hein.
Histoire au pluriel. Vous partez de 1870, on l'a bien compris, vous allez jusqu'à quasi aujourd'hui. Voilà, essayons de comprendre les grands principes, en tout cas, de ce projet. En fait, vous racontez ce que c'est que d'être français, ce qui inclut évidemment le fait d'être devenu français.
Mon père n'est jamais retourné en Italie. Il n'a jamais voulu retourner en Italie parce qu'il a dit « c'est la France qui m'a nourri ». L'Italie, j'ai fait une croix dessus d'ailleurs, il s'était fait naturaliser après la guerre, avec toute la famille, donc pour dire « maintenant on est en France, on est français ».
Comment faire se sentir français ? Françoise Davis, vous en avez parlé, les Bretons, les Auvergnats, les Catalans, l'école, le service militaire et tout ça. Comment fabriquer des Français ? Voilà une expression que vous utilisez à dessein tout au long des deux premiers épisodes. Comment fabrique-t-on des Français ? Françoise Davis.
Alors on fabrique des Français par une promesse, hein, qui est une promesse de faire partie d'une union, d'une unité, d'avoir des droits. Et c'est compliqué parce qu'en fait, à partir du moment où on essaye de déterminer qui est français, il y a un petit souci, c'est qu'on est, on détermine aussi qui ne l'est pas. Et ça pousse tout le temps à quelque chose qui est assez contre la nation, ça pousse au nationalisme et à l'exclusion. C'est-à-dire que d'essayer de faire des, de différencier, ça pousse forcément souvent, enfin, quand il y a des crises ou quand il y a des questions politiques fortes, ça pousse à l'exclusion et à cet amenuisement petit à petit de ce que on considère comme étant français. Alors on convoque la race, on convoque la religion, on convoque tout un tas de choses, alors que au départ le projet de nation c'est un projet d'union.
Carla Derolle, c'est intéressant parce que ce monsieur qu'on vient d'entendre à la fin du premier épisode, me semble-t-il, dans le troisième épisode, il revient et lui qui se sent français, lui, enfant d'Italien, voit de nouveaux Italiens arriver 10 ans après la guerre, venus reconstruire la France parce qu'on a besoin de bras à cette époque-là, et il vit mal l'arrivée de ces nouveaux Italiens.
Oui, qui trouve trop hableurs, trop
trop arrogants,
voilà,
et en trop gros, chez eux.
Voilà, trop finalement. Chez eux. Et en gros, il les trouve trop italiens, quoi. C'est ça qui est intéressant dans cette fabrication des Français, c'est-à-dire que au fur et à mesure des générations, ceux qui n'étaient pas français, qui le sont devenus, se sentent français, voire plus français, et donc ils pratiquent aussi à l'égard des nouveaux venus, j'allais dire une forme de distance. Hein. On est français et eux, ceux qui viennent ne le sont pas. C'est ça qui est intéressant aussi.
Alors évidemment, votre film tombe à pic après une semaine de polémique nauséabonde ou complètement surréaliste. Je sais pas ce qu'il faut en penser en fait. Depuis que le polémiste et journaliste Éric Zemmour a balancé à Absatoussi que sa mère aurait dû l'appeler Corinne, voilà. Donc en regardant Histoire d'une nation, on n'a pas pu s'empêcher avec mon équipe de relever chaque témoignage d'enfants ou de petits-enfants, de Polonais, d'Italiens, d'Espagnols ou d'Algériens qui parlent de ça, justement, de cette question du nom de famille, il y a la question de la naturalisation, mais il y a aussi cette question du prénom qui revient très souvent.
Avec tous ces noms polonais, il était dépassé par tous ces noms polonais. Alors, un jour, il a pris la décision. Il dit, écoutez, vous choisissez-vous le prénom. Et une histoire, c'est que j'avais ma meilleure amie qui s'appelait Czesława. Alors, elle rêvait de s'appeler Eliane. Donc, on l'a appelée Eliane. Elle est restée pour tout le monde Eliane.
Des enfants issus des milieux anarcho de la gauche républicaine portent des prénoms qu'en France, on n'est pas habitué à entendre. Des garçons qui s'appellent Liberto, des filles qui s'appellent Bida, Vie. Harmonie, plaisir, plaisir. Donc ça, en France, on trouve ça un peu bizarre, évidemment. Ils arrivaient d'une autre planète complètement.
J'étais obsédée par mon prénom, parce que alors là, tout le monde se moquait de mon prénom. Et donc, je voulais m'appeler, mon rêve, c'était Martine. Martine va à l'école, Martine, vous connaissez ses livres. Oh, ça me semblait le prénom le plus sublime du monde, quoi. Et donc, je rentrais, je disais, maman, on pourrait pas changer mon prénom. Et elle me disait, non, tu es née Mercedes. Vous savez, des années après, quand j'avais fait toutes mes études, que j'avais réussi mes parcours, que j'avais été prof de français, que j'avais fait HEC, je suis allée en présentation et on me citait beaucoup. Et le patron a dit, c'est qui Mercedes ? C'est la bonne espagnole ?
La bonne espagnole, voilà. Et c'est une grande patronne d'agence de publicité, une femme qui a formidablement réussi, que vous venez d'entendre. Vous vous attendiez à ce que cette polémique sur les prénoms surgisse une semaine avant la diffusion du film. Françoise Davis, Carla Derolle.
Bah, je crois que on s'y attendait pas, mais enfin, on s'y attendait un peu au sens où c'est vraiment très tendu en ce moment, quoi. Ouais. Nous, on a découvert fortement ça dans le quatrième épisode avec les qui racontent vraiment le ressenti alors des enfants et des petits-enfants d'immigrés, mais sur leur vie à eux. Mmh. Et cette surprise dans une France qu'on pense quand même assez mélangée, de ce qu'on leur renvoie encore comme violence sur leur pigment, leur prénom, leur lieu d'habitation, etc., qui est c'est incroyablement dur. Alors il y a Amel Bent, il y a Ramzi, enfin il y a des gens connus, pas connus, qui racontent comme, sans se plaindre, c'est ça qui est chouette, hein, avec une énergie de gens qui vont bien.
Ramzi Beda, qui est humoriste et comédien, et qui lit des témoignages absolument formidables dans le quatrième épisode. Donc, pourquoi avoir choisi de faire raconter cette histoire par les enfants, les petits-enfants et les arrières-enfants d'eux ? Parce qu'il faut quand même dire que c'est un film d'archives. Alors, on n'entend pas, il n'y a pas d'interview d'historien. Il y a un commentaire qui est fait par Roche Dizem, qui est remarquable d'ailleurs. Énormément d'archives. Et puis, c'est émaillé de tous ces témoignages. Alors, il y a des Français complètement anonymes. Et puis, il y a Michel Drucker, enfant juif caché pendant la guerre, Michel Simès, enfant déporté, Pascal Légitimus, arrière-petit-fils de premier député noir, Youri Djorkaeff, russe et arménien, Patrick Fiori, on le croyait corse, il est arménien, Montan Cavana, Lino Ventura, évidemment, Alain Minc, polonais, Catherine Dolto, Kali, etc., etc. Pourquoi, Carla Dorel?
L'idée, c'était d'abord d'être au plus près des récits familiaux, parce que c'est ça qu'on veut rendre, c'est-à-dire que cette histoire d'une nation, c'est, si on l'a mis au pluriel, c'est parce que ce sont toutes les histoires de ces familles qui forment la nation. Et puis c'était l'idée d'avoir les descendants, c'est aussi donc d'avoir les Français, puisque c'est une histoire de France qu'on raconte. Et donc d'avoir des Français qui ont des origines à l'extérieur. Donc c'était vraiment l'idée d'avoir une histoire commune. C'est et ça. De mélanger les histoires.
Alors c'est aussi évidemment une grande saga politique que vous construisez là. Cette série documentaire n'est pas une histoire de l'immigration, c'est important de le préciser. C'eût été un total autre film, Françoise Davis ou Carlo Rader.
C'est essentiel de comprendre ça. C'est pas une histoire d'immigration, c'est une histoire de France avec tout le monde.
Voilà.
C'est comme si, enfin jusqu'à présent, c'est comme si on racontait l'histoire en occultant un quart de la population. Mm-hmm. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est raconter l'histoire de France avec tout le monde.
Alors, avec tout le monde, et en même temps, il y a ces soubresauts politiques, ces allers-retours, cette façon qu'a eu la France tour à tour, par des lois et par des décrets, d'absorber ou de rejeter les populations venues d'ailleurs.
Mais au milieu des années 70, la vie des Français va basculer. Un mot, disparu depuis les années 30, ressurgit. La crise. Et derrière ce mot, une réalité nouvelle, violente. Tous les secteurs de l'économie sont touchés. En particulier les grandes industries. Giscard d'Estaing abandonne ses projets réformateurs. Prenant un virage à 180 degrés, il se replie sur les vieilles idées des années 30. Pour empêcher le chômage de monter, il décide de stopper l'arrivée des étrangers. C'est le secrétaire d'État aux travailleurs immigrés, Lionel Stelieru, lui-même fils d'immigrés roumains, qui s'en charge.
Nous n'acceptons plus d'entrées nouvelles, ça se comprend.
Ça se comprend, ça se discute, hein, parce qu'il n'y a pas de raison, il n'y a pas de différence entre un Algérien et un Français, puisque c'est la circulation des hommes qui prévaut aujourd'hui. C'est plus qu'une réalité, c'est une nécessité. Alors on peut en discuter, ça, non ?
Ah, mais on peut discuter de tout. Moi, je veux bien que vous m'expliquiez qu'en raison de la libre circulation des hommes, si 300 millions de Chinois veulent venir en France demain matin, il faut les accueillir les bras ouverts.
Françoise Davis, vous le dites dès l'introduction de chacun des épisodes, c'est une histoire faite de promesses et de trahisons.
Oui. C'est-à-dire qu'il y a dans...
C'est une histoire cyclique que vous racontez.
Cyclique et une histoire de... C'est-à-dire que c'est la liberté, égalité, fraternité, vraiment. Mm-hmm. Et en même temps, c'est jamais ça avec l'État. C'est-à-dire que c'est la français, ce slogan-là. Mais l'État, c'est jamais ça, c'est qui a quel droit. Et du coup, il y a tout le temps cette espèce d'envie d'accueillir, enfin d'espoir plutôt des gens qui arrivent, parce que les gens ils arrivent toujours. Mm-hmm. Et c'est un pays d'où on vient, la France. Mm-hmm. Ils arrivent et puis quand ils arrivent, ils ont un espoir démesuré et vraiment de. Sinon ils repartent. Il y a plus de la moitié des immigrés qui repartent, quelle que soit la période. Là, plus de la moitié des immigrés qui repartent. Ceux qui restent, ils restent. Ils y croient. Et puis il y a un État qui fait le contraire de ça. Et donc surtout quand évidemment il y a des questions politiques,
les crises, les crises économiques,
parce que c'est plus simple quand on ne sait pas faire face au marché, et on ne sait pas faire face au marché quand on est dirigeant d'un État, et ben on se replie sur ce qu'on sait faire, et ce qu'on sait faire c'est trier. Donc dire aux étrangers maintenant, c'est vous qui allez partir. Et ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'ils ont essayé plein de fois de faire... ils ont fait des trains entiers de Polonais qui sont repartis. Ils ont fait la France aux Français. Ça ne change rien au problème économique. Mais on le fait parce que ça se voit. C'est les immigrés, le flux, comme on dit, c'est ce qui se voit. Et donc ce qui se voit, on intervient dessus. Même si au fond, après, ça ne change rien. Et au contraire, ça aggrave un peu la situation. Puisqu'il y a moins de gens. Et donc il y a moins de possibilités de s'en sortir.
Merci beaucoup à tous les deux. Histoire d'une nation commence ce soir sur France 2. Je suis tellement désolée de n'avoir pu en donner qu'un tout petit aperçu.
Mais
parce que on va regarder ensemble. C'est l'honneur de la télévision publique que de faire ce genre de choses. Merci à tous les deux. C'est la fin de l'émission. Bonjour Ali Rebaï.
J'ai très envie de voir ce doc. Je salue la mémoire de mon arrière-grand-père, Larbi Bouzide, qui a été grièvement blessé à Verdun. Et voilà.
C'est, ah bah oui. Alors ça, voilà. Ça c'est dans le premier épisode.
Exactement.
Voilà. Comment 52 nationalités se sont enrôlées pour la Première Guerre mondiale. Voilà. la nation était faite.
Comment ne plus remettre au lendemain, c'est le thème. Vous êtes une procrastinatrice ou pas?
Pas du tout.
Ah bah tiens, bah, écoutez, si vous voulez témoigner
quand même. Une espèce de fonceuse complètement délirante.
Bienvenue au club alors. Si vous êtes procrastinateur, si vous remettez au lendemain, n'hésitez pas à nous appeler 01 45 24 7000.